Bienvenue à la deuxième séance intitulée Mémoire, Mémoire 2. Il faut frapper deux fois, on se souvient quand on veut qu'une porte s'ouvre. Donc deux séances mémoire. Je ne vais pas m'attarder dans une introduction, on n'a pas beaucoup de temps. Ça sera un panel, une session à deux langues, au moins deux langues. Et donc on va commencer par le français et ça sera, je pense qu'il y aura aussi de la géographie. On va se déplacer, on ne va pas juste faire de l'histoire. René Tsekati est l'auteur d'une trentaine de romans. Je cite quelques titres. L'accompagnement, Aimer, Une fin, L'hôte invisible, Raphaël et Raphaël, Objet d'amour, Enfance, dernier chapitre. Il est aussi l'auteur d'essais, Noir souci, Un renoncement, de biographies, Pasolini, Violette le Duc, Callas, Moravia. Tout ça publié chez Gallimard, au Seuil, chez Flammarion. Il est aussi éditeur aux éditions du Seuil, traducteur d'italien et de japonais en collaboration avec Ryoji Nakamura. Il écrit aussi pour le théâtre et le cinéma. Né en Tunisie, il a séjourné au Japon, en Italie, en Angleterre. Parmi les auteurs italiens qu'il a traduits, Moravia, Pasolini, Bonavieri, Leopardi, Pétrarque, Michel-Ange, Casanova, Umberto Saba, Dante, il collabore aux lettres françaises. Son titre, Écrire au présent, écrire au passé, réflexion sur la mémoire de l'écriture.
Merci. Je voudrais réfléchir comme ça devant vous à, au fond, une double confrontation de l'œuvre d'Hélène avec deux écrivains bien éloignés dans le temps, mais fondamentaux pour la littérature occidentale, en tous les cas, que sont Dante et Pétrarque. Et pourquoi ? Parce que je pense que l'œuvre, on l'a vu déjà ce matin et très souvent, l'œuvre d'Hélène est tout entière un dialogue avec le passé. Et il ne s'agit pas d'une simple remémoration, d'une reconstitution ou même d'une réhabilitation, mais d'un vrai dialogue, comme d'ailleurs on l'a vu ce matin, entre deux cultures, mais pas uniquement deux cultures, deux zones temporaires, non pas seulement deux zones géographiques, mais deux zones temporelles, qui sont bien sûr le passé et le présent. Et très souvent, Hélène convoque des auteurs du passé avec lesquels elle dialogue, non pas qu'elle commente, mais avec lesquels elle dialogue. Et je suis frappé quand je lis les livres d'Hélène, par le fait qu'elle n'a évidemment pas une posture de critique, ni d'universitaire, ni même de commentatrice, mais elle parle et elle fait parler les écrivains qu'elle convoque exactement avec la même familiarité que l'on pourrait avoir dans une conversation familiale, profonde, complice, quand on parle de quelqu'un que tout le monde connaît autour de la table, et sur lesquels chacun a déjà une idée, mais qu'elle va préciser, elle, d'une manière extraordinairement aiguë, et en les faisant parler, vraiment. Alors, pourquoi je mets en rapport avec Dante et avec Pétrarque ? Avec Dante, parce que vous savez tous, la Divine Comédie, qui est un voyage chez les morts, voyage dans le passé, un passé mythique, un passé historique et un passé récent, qui est le passé de la Florence du XIIIe siècle et du XIVe siècle, qui est le moment où Dante écrit. Et l'amour et la mort, ils sont extraordinairement présents, mais d'une manière très particulière, et que moi, en tant que lecteur, je retrouve dans l'œuvre d'Hélène. Pourquoi l'amour et la mort ont une présence particulière? Parce que l'amour n'est jamais un moment, un événement situé dans le temps que l'on peut décrire par une simple remémoration. L'amour, c'est sa caractéristique, c'est le fait que ça ne va pas, le sentiment amoureux ne va pas s'arrêter au moment où les événements y mettent un terme. De même que la mort ne s'arrête pas au moment où le cœur a cessé de battre. Et on en a d'ailleurs la démonstration, si on peut dire, dans les derniers livres d'Hélène, quand Ève Klein est morte, tous les lecteurs d'Hélène se sont dit, il y a quelque chose qui va se passer, qui va modifier considérablement les livres à venir. Or, finalement, les livres à venir n'ont pas été autant modifiés qu'on pouvait s'y attendre, tout simplement parce que la mort de Eve Klein ne s'est pas produite il y a 4 ans, elle ne s'est pas produite. La mort elle-même ne s'est pas produite. Et c'est le sentiment que l'on a, que moi j'ai eu, si je parle de Dante, c'est que je viens de traduire la Divine Comédie, et on a ce sentiment quand on lit Dante, c'est-à-dire que les événements qu'il va décrire ne s'en sont pas achevés au moment où Dante les décrit ou s'en souvient. Justement, la littérature est faite pour faire éclater ces événements qui sont l'événement amoureux ou la mort, et ça gagne complètement l'entièreté du livre. Quand il écrit la Divine Comédie, Dante va se décrire parmi les morts, marchant parmi les morts, dans un lieu qui ne doit pas être le sien, et tous les morts s'interrogent en disant « Mais qui es-tu, toi ? Quelle légitimité as-tu, toi, à te trouver parmi nous ?» Et Dante, très souvent, donne des indices qui manifestent l'étonnement des morts. En général, c'est une pierre qui bouge sous le corps de Dante, ou c'est l'ombre, puisque les morts sont transparents, ne font pas d'ombre, et donc c'est l'ombre qu'ils découvrent sur le sol. Parfois, c'est le sable qui se soulève sous le pied des morts. Et ce qui donne évidemment à la parole de Dante une réalité extraordinaire. Et je dois dire que quand aussi je lis les livres d'Hélène, il y a une présence humaine extra-littéraire très forte qui vient, même si le projet est extrêmement cérébral, même si nous le savons, les livres d'Hélène Cixous sont lus par une certaine catégorie de lecteurs qui ont un rapport au texte particulièrement aigu. Mais ceux qui habitent le livre, c'est autre chose, qui est justement cette présence tout à fait extraordinaire de certains personnages à l'intérieur des livres qui font que l'on n'a pas l'impression de lire un livre cérébral. On est en plein dans la vie. Et si Eve Klein a joué un tel rôle dans l'œuvre d'Hélène, ce n'est pas uniquement parce que c'est la mère, bien sûr, et l'origine de la langue, enfin tout ce qui a été analysé ce matin, bien sûr, c'est fondamental, mais ce n'est pas uniquement ça. Et c'est un autre point qui rapproche à mes yeux l'entreprise littéraire d'Hélène d'une entreprise aussi gigantesque que celle de Dante, c'est le rôle de la langue parlée. Vous savez que Dante a écrit un texte extrêmement important qui s'appelle « De l'éloquence vulgaire », qui est un texte sur l'usage de l'italien dans une œuvre noble, puisque le latin était réservé normalement aux textes intellectuels, aux textes d'analyse et même aux grands poèmes. Or, Dante va utiliser l'italien, et en utilisant l'italien, ce n'est pas uniquement le fait d'utiliser la langue orale, mais c'est de montrer qu'il manquait à la littérature, même noble, une autre forme de présence du mot, et qui est l'italien que tous les Florentins parlaient au XIVe siècle. C'est justement ça qui va donner à son œuvre non seulement son caractère durable, le fait qu'on lit encore la Divine Comédie maintenant, mais aussi le fait qu'il y a dans la littérature quelque chose qui jamais n'avait eu lieu jusque-là. Je vais vous donner un simple exemple de ce surgissement de la langue parlée. Ça se trouve au moment où Dante est dans l'enfer et il rencontre Brunetto Latino dans le cercle des sodomites. Et Brunetto Latino était son maître de grammaire, celui à qui il doit beaucoup. Et il se trouve dans le cercle des sodomites. Évidemment, stupeur de Dante de le voir traité comme un criminel. Et c'est un des moments les plus extraordinaires parce que Dante, brusquement, va sortir du jugement moral religieux et va converser avec son maître. Voilà ce qu'il dit. Je vous lis, c'est un bref extrait. On était déjà loin du bois, d'ailleurs j'aurais été en peine de savoir où, me retournant, quand une troupe d'âmes vint vers nous en contrebas, elle nous regardait ainsi qu'on se regarde au soir sans lune. Pour mieux voir, plissant les paupières, comme un tailleur passant le fil dans son aiguille. Un de ce clan me dévisagea et me prit par mon pan, criant « ça alors ». Et vous voyez, ce « ça alors », c'est ainsi que je traduis l'expression italienne, est typique du surgissement d'une langue parlée, mais ce n'est pas simplement que Dante a l'art du mimétisme et l'art du dialogue. C'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que la personne même de Brunetto Latino apparaît dans le texte de Dante. Et ce sont des événements semblables qui se produisent constamment dans l'œuvre d'Hélène Cixo. C'est-à-dire qu'on peut être à un niveau d'analyse extrêmement élevé en dialoguant avec Stendhal, en dialoguant avec Jean Genet, en dialoguant avec Rembrandt, en dialoguant avec différentes figures qui accompagnent constamment l'œuvre de réflexion d'Hélène, et il y a la voix brusque de Ève qui est là. Et cette voix double, évidemment, le discours intellectuel, et c'est ça qui fait que, un peu comme, évidemment, comme Françoise chez Proust, mais c'est plus que ça. Françoise est simplement un personnage à l'intérieur de la recherche du temps perdu. Alors qu'ici, bien sûr, c'est plus qu'un personnage. C'est quelqu'un qui va doubler la conscience de l'écrivain. C'est pour ça qu'une fois Ève morte, elle est toujours là, parce qu'elle est absolument nécessaire à cette conscience redoublée. Alors, je me suis souvent posé la question, et je pense que beaucoup d'entre vous vous la posez, quel est le statut du réalisme dans l'œuvre d'Hélène? Comme vous le savez, il y a beaucoup de dates. Il y a quelques noms propres, il n'y en a pas énormément, mais il y a quelques noms propres. Je ne parle pas des noms d'écrivains ou de peintres ou de philosophes, mais de noms de personnes qui appartiennent à l'entourage d'Hélène, et il y en a peu. Et on ne cesse de se poser la question, qui est qui? Qui est le bien-aimé? Qui est telle personne nommée ou non nommée? Parfois, des indices sont donnés extrêmement précis, c'est le cas de Carlos Fuentes, bien sûr, ou de Jacques Derrida, qui sont trop facilement identifiables, mais certains ne le sont pas. Et je dois dire que Dante procède exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont désignés, parce qu'ils sont extrêmement connus et reconnaissables, et d'autres non, qui sont désignés par des périphrases, et c'est justement ou par des petits indices, et qui les reconnaît, celui qui ne les reconnaît pas, tant pis. Et ce n'est pas simplement un jeu de rébus ou un jeu de devinettes, c'est justement quelle est la question se pose de la réalité même du personnage à l'intérieur de l'œuvre littéraire. Alors, parfois, on a l'impression qu'il y a un ajustement volontairement flou, c'est-à-dire comme si l'écrivain n'avait pas fait exactement le focus, comme on dit en anglais, sur le point, sur le personnage. Et bien sûr, c'est volontaire. C'est volontaire parce qu'il y a tout un système qu'on pourrait appeler un peu sur le modèle de la dyslexie. Moi, je hasarderais deux néologismes, la dyschronie ou la dystopie. La dyschronie qui consisterait à ne pas mettre les événements à leur juste place dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir, mais volontairement faire une interférence. Et la dystopie mélangeait les lieux. C'est-à-dire qu'il y a des lieux qui ne sont pas exactement ceux qui sont désignés, qui sont autres parce qu'il y a des analogies, parce qu'il y a des interférences entre les lieux. Et c'est ça qui donne justement la vie de la littérature. C'est pour ça que réduire l'analyse d'un livre d'Hélène aux éléments biographiques qui les ont constitués, c'est manquer quelque chose de fondamental dans la littérature. Je ne dis pas que ce soit inintéressant. Mais le geste littéraire lui-même est manqué. Parce que même s'il y a des liens constants avec la vie présente, politique, familiale, humaine qui l'entoure, la littérature suit un autre chemin. Et du fait même, que la mémoire d'Hélène ne fonctionne ni comme une mémoire volontaire de type Chateaubriand, disons, ni comme une mémoire spontanée, faussement ou vraiment spontanée comme celle de Proust. On attend le moment qui permet la réminiscence spontanée, qui va permettre le rapprochement avec un événement du passé qui va donner à un événement du présent sa véritable essence. Hélène est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est volontaire. Bien, on en a des exemples, dans les livres d'Osnabrück, puisque là, il s'agit de remonter dans une mémoire qui n'est pas, comme on l'a dit ce matin, qui n'est pas sa mémoire personnelle, mais qui est la mémoire familiale. Et en même temps, donc on va faire le geste d'aller à Osnabrück ou à Jérusalem, mais en même temps, ce n'est pas dans ce geste volontaire que va résider véritablement le fond même du geste littéraire. Hélène le sait, quand a paru Correspondance avec le mur, je lui ai demandé, mais est-ce que vous êtes allé vraiment à Jérusalem? Et j'ai posé la question de manière naïve et sincère. J'ai eu un doute à la fin du livre, j'ai dit, mais peut-être que, parce que j'ai pris au sérieux, bien sûr, la lettre de Marga, la cousine, qui fait comme si Hélène n'était pas venue à Jérusalem. Et je pense que c'est une question qui se pose à propos de très nombreux livres d'Hélène, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de vrai, mais qu'est-ce qu'il y a d'historique dans ce qui est écrit dans le livre. Et je pense que ça, c'est une question qui signale justement la littérature. Quand dans un livre, on commence à s'interroger sur ce qu'il y a, quelle est la connexion qu'il y a avec l'origine qui a nourri le livre, à partir du moment où on se pose cette question, on commence à comprendre qu'on est dans la littérature. La mauvaise littérature est une littérature mimétique, tout simplement, et répétitive, qui répète ce que la vie a déjà dit et exprimé. Ici, on est dans un autre domaine. Alors, ce qui est aussi, je terminerai là-dessus pour faire un très rapide et superficiel rapprochement avec donc l'autre écrivain qui compte beaucoup pour moi, comme pour tous les Italiens, dans la mémoire de la littérature italienne, qui est Pétrarque. Ce qui est très troublant dans l'œuvre de Hélène, c'est que la mémoire n'est pas seulement un travail souterrain, sourd, qui est sous l'écrivain, et comme si l'écrivain essayait d'avoir accès à cette zone inconsciente par les moyens de la littérature. Je pense que la mémoire a sa propre autonomie et que l'écrivain est un instrument de cette mémoire. Et pourquoi je fais un rapprochement avec Pétrarque? Parce que je n'ai pas pu m'empêcher de penser en lisant le livre que Hélène a consacré à la mort de son premier garçon. Je n'ai pas pu m'empêcher de, le jour où je n'étais pas là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la mort de Laure de Nove. Comme vous savez, Pétrarque a vécu un événement désastreux qui est la mort de Laure, victime de la peste, en 1348. Qu'est-ce qu'il a fait de cet événement? Il en a fait un livre qui s'appelle Il Canzoniere, qui est en deux parties, en vie, dans la vie de Laure, et la deuxième partie, dans la mort de Laure. Et le livre est une espèce de monument à cette mort absolument indicible. Et quand on lit le livre de Hélène, celui-ci en particulier, mais la mort de cet enfant traverse Georges, traverse toute l'œuvre d'Hélène, même si elle n'est pas exprimée directement. La mort de cet enfant a un statut très particulier dans l'œuvre, parce que ce n'est pas simplement un événement qui va rendre coupable à jamais la mère, et d'une certaine manière la grand-mère, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans le livre. Il s'agit d'écrire un événement qui est totalement indicible. D'ailleurs, le livre se termine par une petite enquête. Qui disait vrai? Est-ce que c'est Ève qui disait vrai? Est-ce que c'est le frère d'Hélène qui dit vrai sur la mémoire qu'il a de cet événement? Et la question ne sera pas résolue, la réponse ne sera pas donnée dans le livre. Et c'est normal, parce que ça fait partie de ces événements qui vont complètement gagner la totalité de l'œuvre, exactement comme chez Pétrarque, la totalité de l'œuvre va être gagnée par la mort de Laure, dont, vous le savez, on ne sait pas qui elle était. On pense que c'était l'ancêtre du marquis de Sade, mais ce n'est pas prouvé. On pense que peut-être l'événement n'a pas eu lieu, que la mort même de Laure n'a pas eu lieu. Mais ce n'est pas le mystère, ce n'est pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Le véritable mystère, c'est qu'une œuvre ait suffisamment de force pour qu'un événement, s'il a été inventé, puisse continuer à poser une question 6 siècles plus tard quand on le lit. Alors, je terminerai simplement par une citation de Pétrarque pour que vous entendiez la voix de Pétrarque que je mets en écho, moi, avec celle d'Hélène. Je vous lis un sonnet de Pétrarque parce que c'est un sonnet sur le présent de l'écriture qui se dissout complètement dans la mémoire. C'est-à-dire que le moment où l'on écrit explose et dépasse le moment même où l'écrivain a écrit ses vers. La vie s'enfuit, ne cesse pas une heure. La mort la talonne à grande journée. Les choses présentes et les passées me font la guerre, comme les futures. Me souvenir et attendre m'afflige. À toute occasion et en vérité, si je n'avais pas pitié de moi-même, j'aurais déjà quitté notre conscience. Je me ressouviens, si mon cœur si triste eut quelque douceur, mais je vois pourtant, que les vents ont en mer troublé ma route. Le salut est au port, mais mon pilote est là. Mât et voilure sont brisés. Les phares qui me guidaient sont éteints. Merci.
Merci beaucoup pour cette magnifique traversée de plusieurs mondes en une poignée de minutes. C'est magnifique d'avoir fait tenir tous ces textes. On garde les questions pour après. Je pense qu'on enchaîne directement. Nous allons entendre Metka, je vais essayer de ne pas me tromper sur le nom, vous me corrigez, Metka Tsupancic, qui vient de l'université de Alabama, Tuscaloosa, là aussi je me suis peut-être trompée, non, Tuscaloosa. Elle est donc professeure titulaire de français langue moderne à cette université. Elle travaille depuis beaucoup d'années, me dit-elle, enfin bon nombre d'années, je lis le texte qu'on m'a donné, mais bon, sur la littérature des femmes contemporaines, dont en particulièrement l'œuvre de Cixous, ce dont témoigne sa monographie publiée en 2007, Hélène Cixous, texture mythique et alchimique. En 2016, elle a publié Les écrivaines contemporaines et les mythes, le remembrement au féminin, ainsi qu'un ouvrage collectif intitulé La mythocritique contemporaine au féminin, dialogue entre théorie et pratique. Ses autres publications inclut Lecture de Claude Simon, La polyphonie de la structure et du mythe en 2001, ainsi que la codirection d'ouvrages collectifs sur les mythes et la spiritualité dans la littérature et la pensée contemporaine. Donc son titre, Les mythes, pour retarder les séparations, pour s'ouvrir sur le monde.
Merci beaucoup. Ça va ? Je préfère lire et donc je reste dans le domaine des mythes. Dans l'annonce de ses séminaires pour l'année prochaine, 2017-2018, Hélène Cixous se pose la question de ce qu'il y a dans le nom « What's in a name » pour savoir ce qu'un nom peut évoquer comme dimension multiple et variée pour notre compréhension de la littérature et de la vie, les deux fusionnant chez elle le plus souvent. En effet, dans ma lecture de ses œuvres, je pars souvent de ces indices que sont les noms, en cherchant à l'arrière-plan, dans les soubassements des vibrations que ces noms suscitent, des associations possible avec des ensembles significatifs plus vastes, plus anciens aussi, comme le fait d'ailleurs Sixou elle-même, et on vient de l'entendre. Autrement dit, en plaçant ma lecture dans le contexte d'une certaine mythocritique, voire mythanalyse, dans la perspective de Gilbert Durand principalement, je suis sensible à l'agencement de ces bifurcations, voire des tangentes mythiques qui se produisent dans les textes sixousiens, justement grâce à l'apparition des noms différents. À côté des auteurs souvent cités dans plusieurs œuvres, il y a les noms des personnages littéraires qui sont déjà entrés dans la légende ou alors dans le domaine des mythes, comme par exemple Ajax, Ulysse, Tristan et Iseut, etc. Certes, il ne s'agit pas d'imposer une association trop étroite entre un paradigme mythique ancien, souvent mis à jour, renouvelé, et l'interprétation que lui attribue Sixou. C'est sa manière de joindre plusieurs ensembles significatifs et partant symboliques, à première vue même contradictoires, tel le contexte gréco-romain côte à côte avec le domaine juif ou indien, par exemple, qui reste fascinante et que je me propose d'explorer ici en partie en me concentrant davantage sur le legs gréco-romain que sur la judéité dont il est largement question, par exemple, dans Correspondance avec le mur de 2017. L'arrière-fond grec se manifeste par ailleurs très clairement dans Ayaï, le cri de la littérature de 2013, cette réflexion sur la valeur et l'importance incontournable de la littérature, ou pour citer l'écrivaine elle-même, ça ne pense qu'à ça, la littérature, à remuer des cendres, à refaire avec des mots des phrases inouïes, à ressusciter, à ranimer les feux, cris et feux. Et c'est à la page 12. C'est donc en inscrivant le nom d'un personnage, d'un héros du passé, dans un texte contemporain que le domaine entier de la littérature crée des conditions pour leur renaissance, leur résurrection. La mémoire l'emporte ainsi contre l'oubli. Le cri de la souffrance se fait entendre, celui que seule la littérature permet d'exprimer ouvertement dans le feu des passions qui servent de miroir à chacun, chacune d'entre nous. Ainsi, je cite, l'écriture et la lecture de page 22 de Ayaï se combinent puisqu'elles représentent les deux processus inhérents à la littérature qui, elle aussi, toujours entre les deux extrêmes de notre existence pour semer conjointement, et je cite encore, une graine de vie et de mort. Et on en a parlé déjà aujourd'hui, page 22. Grâce à ce que Sixou appelle la chimie inépuisable, page 23, de poète en poète, je cite, se forment des chaînes de mots, des mots coquilles de noix, des mots génies, des graines de temps aux endormis, qui finissent par générer cette transmigration, page 23, à travers des siècles pour assurer la résurrection, voire la remontée depuis les profondeurs d'Hadès. La souffrance face aux disparitions inévitables des êtres les plus fondamentaux de notre vie se mire constamment dans l'incontournable, la mort, ce à quoi la littérature, celle qui mérite ce nom, je suis contente que vous en ayez parlé, ne se résout pas, en fin de compte, dans une sorte de nouvelle catharsis qu'elle propose à travers la compassion, c'est-à-dire la souffrance partagée, puisque, et je cite encore, « Chaque glas te célèbre, tu meurs dans chaque mort » de Ayaï, page 45. La littérature de Sixou raconte non seulement des catabases, mais propose des anabases, peut-être plus réussies que dans le passé, et c'est là un domaine que j'aimerais explorer plus à fond avec le temps. Toujours est-il que les êtres ramenés de l'autre monde ne peuvent revivre, renaître qu'au sein des mots agencés en textes littéraires qui se font écho de siècle en siècle, depuis des millénaires, et je cite, de Sophocle à Shakespeare, d'Ulysse à Macbeth, de Samson à Dimitri Karamazov, de Rousseau à Ingeborg Bachmann. Ainsi, comme je l'ai annoncé dans mon titre, les séparations, si elles ne sont pas complètement évitées, bien sûr, se sont au moins retardées. Avec l'inclusion des ensembles thématiques reliés à des régions et des cultures très variées, cette littérature si prolifique, fluide, ne s'arrête à aucun obstacle, en intégrant plutôt les points saillants pour les utiliser à son escient dans des conjonctions des contraires, comme dans Correspondance avec le mur. Et je cite, « Ce qui sépare est ce qui nous réunit ». Et en un mot, « sépare et unit », page 83. À savoir des oxymores et des paradoxes constants, comme par exemple dans le constat suivant dans Ayaï, je cite, « écrire ce don de découvrir un lien profond dans le constat, écrire ce don de découvrir un lien profond entre deux idées qui s'étreignent et se renversent », page 66, ou alors, encore dans Correspondance avec le mur, je cite, « mon besoin vital de pousser la pointe de la pensée au cœur du combat des paradoxes », page 71. En ce qui concerne mon deuxième postulat, l'ouverture sur le monde. Les écrits silksoussiens en sont largement la preuve, pas besoin de le prouver en fait, puisque l'écrivaine, comme elle le signale, habite un espace, voire un espace-temps sans limite, elle qui, et je la cite, retrouve dans le monde, qui se retrouve dans le monde littérature, comme tout le monde, nous tous, toutes, page 56 dans Aïe. Cela devient particulièrement évident dans Correspondance avec le mur, à travers la généalogie familiale qui se ramifie entre pays et continents. Mais qu'en est-il des mythes, le point de départ de ma réflexion, c'est-à-dire des schémas mythiques ou archétypes plus ou moins explicites, surtout dans ce dernier texte à date, à savoir Correspondance avec le mur. Surtout, qu'en est-il des noms mythiques qui paraissent les plus significatifs dans ce livre, puisque en ce qui concerne tout héros antique, son nom et son destin, ça c'est une citation de Aïe de page 57. Avant d'y répondre, je me sens obligée de revenir encore vers Aïe, le cri de la littérature, où Sixou a repensé la place et la fonction de la littérature comme processus et comme mode d'existence. Un constat qui résume en grande ligne sa pensée, c'est sa conviction que, et je cite, « la littérature peut refaire de la vie avec des cendres, de la vie autre ». On a parlé de ça aujourd'hui, de l'autre planète, de la vie suivie, poursuivie, ça c'est page 26. C'est d'ailleurs dans ce texte que se trouve affirmée la valeur particulière des noms. C'est de là que vient aussi l'annonce pour le séminaire de cette année. Ce qu'il y a dans un nom, page 47. Pour mon propos, le nom mentionné dans Aïe, qui est étroitement rattaché au schème mythique des Catabases et des Anabases, est certainement celui d'Eurydice, le rappel du récit traditionnel où cette figure féminine est léguée dans l'au-delà, d'où, en fin de compte, elle ne revient pas. L'écrivaine appelle, et je cite, Eurydice, maman, dans l'espoir de, et je cite encore, contredire l'arrêt prononcé par la mort. Nous appelons l'être, elle apostrophe être, qui n'est pas là, nous le retenons par les franges de son être, par les lettres de son nom. Aïe, page 25. La mère est donc associée ici à Eurydice, mais que signifie cette association ? Dans le contexte du mythe orphique, le poète cherche à rejoindre, retrouver Eurydice dans l'au-delà à l'aide du chant. Il s'agit d'enchanter, de séduire les gardiens du trépas par la poésie, toujours chantée. Mais dans Aïe, c'est Sixou elle-même qui est enchantée par ce qu'elle appelle la revenance, et on en a parlé aujourd'hui, de la littérature. Elle qui, comme on le sait, continue à faire revenir par les mots, le rythme, le chant, tous ces êtres dans ses textes. Elle leur offre cette, je cite, « hospitalité », si bien définie par son grand ami Jacques Derrida, dont décide justement ce concept dans Aïe, page 41, tout en sachant qu'elle ne peut faire revivre les morts que dans ce monde autre que sont ses livres. La magie de la littérature, selon elle, réside dans, et je cite, « des feuilles de papier sur lesquelles sont étalées des phrases ensorcelantes, des chants qui hypnotisent et charment la souffrance et la maintiennent en vie comme vie ». Page 68. Les textes d'hommage restent ainsi les tombeaux littéraires, puisque, je cite, « la littérature est cette divinité sublime de la transformation qui s'affaire toujours autour des mêmes tombeaux, des mêmes secrets » dans Aïe, page 27. Toujours est-il que cette divinité de la transformation ne peut pas empêcher les départs, les catapases de ceux et celles qui, d'une manière particulière, font partie de l'écrivaine, étant des « moi » au pluriel. Et je cite, « une à un, tes amis descendent chez Hadès, tes, moi, M-O-I, avec un S en italique, sont plus nombreux de l'autre côté que de ce côté. » Aïe, page 45. Si les autres sont une partie d'elle-même, l'écrivaine opère chaque fois sa propre catabase. Et je cite, « la traversée de l'Achéron ». Mais cette traversée paraît nécessaire puisque c'est de là que part sa propre écriture, comme c'était le cas après la lecture de ce lent à Manhattan, qui l'a plongée, comme elle le dit, dans une sorte d'extase. Je cite, « je ne savais pas qui j'étais », ce qui lui a fait prêter l'oreille aux premiers ordres dictés par la littérature. Et c'est dans Aïe 45. La littérature est donc la force majeure, divinisée, inévitable, et son premier lecteur, l'ultime, et aujourd'hui on en a mentionné aussi, divinisé en quelque sorte aussi, ici du moins c'est Jacques Derrida. Un peu plus loin dans Aïe, c'est par la mention de Derrida justement que la réflexion enchaîne sur la possibilité de communiquer avec l'au-delà, comme Sixou l'a déjà fait durant le séminaire de 2009-2010 sur le thème « Songe d'une nuit des téléphones », le jeu de mots sur Shakespeare et le téléphone. où elle évoque, comme dans un même souffle, Orphée et Proust, en constatant qu'en fin de compte, si on ne peut pas se téléphoner, voire communiquer avec les morts, on lit. Et je cite encore, « Il ne nous reste plus qu'à lire à la dernière extrémité. » Toutefois, dans Ayai, la promesse de la continuation dans les rapports si étroits existe, et je cite, « Parole de G.D., on trouvera un autre moyen de se téléphoner mort. » Page 47. De là, il n'y a qu'un pas pour affirmer que, et je cite, « La littérature, c'est le téléphone anti-mort, la magie qui établit la liaison entre nous, les orphées, orphelins et nos êtres chers invisibles en apparence, mais présents. » Page 48. Une des rares mentions directes de l'ensemble mythique orphique, avec le mot Orphée au pluriel écrit avec une minuscule, ce qui, par cet antonomasme, généralise le thème. Mais la seule magie possible se passe encore et toujours par ce que Hélène Cixous définit par Bok, le rectangle magique. Page 48. Orphée revient une autre fois, page 75, en recoupement avec Oedipe, pour dire Ajax, pour ne pas dire Othello, pour dire Julien, fin de citation. Voilà qui sont tous en quelque sorte interchangeables, même si l'incombe manquant est toujours à la figure d'Orphée d'aller les chercher chez Hadès, donc de les sortir de l'oubli possible. Vers la fin du livre à Ayai, un bref dialogue entre la mère mourante, Ève et sa fille, montre toute la complexité des rapports avec les êtres les plus chers. Vouloir empêcher la mère de mourir, de partir, est-ce que cela n'égale pas s'arroger des pouvoirs qui nous dépassent ? D'autre part, ne pas les empêcher de mourir ne signifie-t-il pas qu'on se rend coupable du trépas de ces personnes ? L'écrivaine qui s'accuserait à la rigueur de provoquer la mort devient aussi une mère littéraire, quasi démiurge, puisqu'elle fait revivre dans ses livres tant d'êtres, tant de noms. Dans Correspondance avec le mur, dès le prière l'inséré, nous nous retrouvons pleinement dans les tentatives de communication avec les morts et la vie au-delà. Je cite, « Comme si je voulais les rencontrer après leur mort », troisième page de prière d'inséré. L'écrivaine reste évidemment de ce bord, mais comme elle l'indique, je cite, « Je passe mon temps à téléphoner aux morts, à vouloir faire parler les cendres, à sonder les murs », toujours dans prière d'inséré. Le mur, évidemment, est celui de Jérusalem, écrit avec une majuscule dès le titre de cet ouvrage, et pourtant personnifié, divinisé aussi, puisqu'il reçoit des doléances, les requêtes et les souffrances de celles et ceux qui lui confient leurs secrets. Le mur, avec la majuscule donc, c'est aussi la division, la séparation d'avec les autres mondes, l'obstacle qu'il s'agit de contourner, vu qu'il occupe conjointement l'espace de la désacralisation et de la resacralisation. Les balayeurs qui viennent le débarrasser des bouts de papier introduits dans ses fentes font tous les jours sa toilette, page 121. Mais par leurs actes, détruisent toute valeur, toute illusion métaphysique à la tentative des humains de se faire entendre par ce mur, alors qu'ils s'obstinent à trouver des réponses à leurs questions. Et là, la narratrice aussi pose la question, « Je demande, j'écris pour demander, je demande ma mère, je demande où est Isaac, quand je peux espérer le revoir », page 122. Face au mur qui n'apporte pas de réponse à ses cris de cœur, à ses déchirures intérieures, la littérature resterait-elle une valeur plus sûre ? Une littérature qui s'applique à remembrer, comme j'aime bien le nommer, ce qui est épars et ce qui est démembré, telle cette, je cite, « immense famille déchiquetée et dispersée sur 5 continents », page 141, que Cixous évoque dans « Correspondance avec le mur » et qui réveille chez moi encore et toujours des associations avec le mythe orphique basé sur les schèmes de descente et des remontées des catabases et des anabases. À ces phases du mythe s'ajoute la troisième, celle du démembrement, sparagmos, ce qui, chez Cixous et aussi chez d'autres écrivains, écrivaines, auteurs contemporains, contemporaines, est comme nécessairement complété par un nouveau schème du rassemblement des morceaux épars, ce que je désigne justement par le terme de remembrement. Et la mémoire y est, bien sûr. Les schèmes principalement orphiques de la descente dans l'au-delà, la catabase, de la remontée et aussi du déchirement sous-tendent d'autres mythes grecs également. En premier lieu, le rapport qu'on a déjà vu entre Déméter et Perséphone dans beaucoup de textes de Cixous. Ces dyades mythiques incarnent la possibilité de retour dans notre monde, aussi la possibilité de guérir temporairement des séquelles de la séparation. malgré les séjours obligés de Perséphone dans l'au-delà. Et Perséphone, à savoir Proserpine chez les Romains, est donc celle qui chemine entre les mondes, comme dans la description d'en correspondance avec le mur qu'en propose Ève. Je cite, « Ce sont des Proserpines, des jeunes filles, bon, très, très proustiennes, qui remontent sous la terre et qui ont du caractère. » Page 125. Par ces mots, Ève se projette elle-même, en quelque sorte, dans le rôle d'une revenante, d'une Proserpine, puisqu'elle affirme, et je cite, « Je suis morte, mais je suis forte. » Page 93. En tant que telle, elle peut effectivement devenir la guide dans l'autre monde pour la fille. Et je cite, « Elle est pressée, elle me précède et je la suis. » Page 93-94, à l'image de Dante, si bien évoquée, guidée par l'au-delà, par Virgile, et c'est dans le livre. Là encore, tout se fait écho. La mention que fait Ève des Proserpines est, comme annoncé plus tôt dans correspondance avec le mur, par l'évocation des photos où les jeunes femmes, trois jeunes juives allemandes, Ève, sa sœur Eri, sa cousine Marga, et je cite, « viennent d'incarner la libération des femmes, ce qui sans le savoir... et qui, sans le savoir, court cet été-là dans les visions de Marcel Proust comme les nymphes qui en avaient le droit dans les églogues de Virgile. » Et c'est là, en fait, à quoi j'arrive par cette réflexion. Et voilà l'ombre de Virgile qui veille sur cette œuvre sixtusienne. Nous savons que dans la quatrième églogue des Bucoliques, le poète latin annonce une nouvelle ère, un âge d'or, ce qui, par les liens intertextuels, pourrait expliquer un bon nombre de références alors au feuillet d'or en correspondance avec le mur. Dans la quatrième églogue, Virgile demande l'inspiration à la nymphe et ensuite c'est elle qui lui dicte son chant en quelque sorte. Par analogie, chez Sixtus, si Ève est associée à une nymphe, et on sait que Eurydice était une nymphe au départ, elle servira non seulement de guide mais aussi d'inspiration à sa fille. Virgile, outre les bucoliques, est évidemment l'auteur des géorgiques, dans lesquels la quatrième églogue, encore la quatrième, est dédiée à l'histoire d'Orphée avec Aristée qui poursuit Eurydice, ce qui, indirectement, cause la mort de cette dernière. Ce récit, comme on le sait, sert de fondation à toute la tradition orphique des deux derniers millénaires, ce dont Sixtus est parfaitement consciente, elle qui a été chercher sa figure d'Ila, son texte de 80, chez Virgile. Et c'est surtout Colette Camelin qui l'a analysé à fond. Voilà que chez Sixtus, les schèmes des catabases et des anabases au féminin se manifestent tôt dans sa carrière littéraire, même si ce sont plutôt les livres plus récents qui semblent insister davantage sur les rapports mère-fille, renversés à plusieurs reprises. Ces rapports paraissent toujours nourris par les paradigmes orphiques du chant, à savoir de la parole littéraire, censée retarder l'ultime séparation, pour que la parole, comme je l'ai suggéré plus haut, puisse offrir une nouvelle vie aux défunts. Et je pense que je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup, Metka, d'avoir mené le ton à la baguette. Et merci aussi pour ces prononciations diverses de aïe aïe. Il faudra peut-être s'entraîner à les prononcer dans diverses, faire une session de prononciation de aïe aïe. Bon, on continue. Alors, avec, on va changer de langue cette fois-ci. On passe en anglais ou alors dans un mélange de langues. Je ne sais pas, Laura, ce que tu as prévu de faire. Donc, nous avons le plaisir d'écouter Laura Hughes de New York University. Son titre en anglais, Sixtus Before, Beside and Beyond the Book. Sixtus avant, à côté, au-delà du livre. Je lis ton texte en anglais, je pense, ton texte de présentation, si ça gêne personne ou si quelqu'un veut une traduction. Laura Hughes is currently a postdoctoral fellow in the College Core Curriculum at New York University. Her work on Sixtus, Derrida and their archived friendship has appeared in Continent Manuscrit and in the forthcoming Sixtus après 2000. She has presented on the subject at numerous conferences for the Modern Language Association Convention in 2017. Laura also organized a panel on 50 years of Sixtus. Her master's thesis at the Centre d'études féminines et d'études de genre Paris 8 focused on Sixtus' Livre que je n'écris pas and on the question of the archive. Her current book project, Archival Afterlives, Sixtus and Derrida Beyond Matter, is under contract with Northwestern University Press. À toi, Laura.
Merci. And yes, this will be in English, which I hope will not be a wall, but there will be holes in the wall. So this combines a subject that I started to work on 10 years ago, le livre que je n'écris pas, the book I do not write, with what is for me a very new subject of reflection, synecdoche. In many ways, the livre que je n'écris pas resists description, indexing, fixing. It is an ambiguous zone, as Paul de Man put it. But he was referring to synecdoche. Both are tropes, borderline figures. They are rhetorical devices, objects that lay the foundation for abstract thought, as Giambattista Vico put it. Yet it would seem that the livre que je n'écris pas is immaterial. It is elsewhere, otherwise, virtual, ghostly, shadow. It is not my intention to bring the livre que je n'écris pas from shadow into light, to call it by name, to stay it, but to reflect on how the livre que je n'écris pas as synecdoche touches on material and virtual, life and writing, life and its others. In turn, synecdoche, seen through the livre que je n'écris pas, appears to be a figure of connection, connectivity, though paradoxically through dissonance and disjointedness. One, in the library. J'ai commencé le livre que je n'écris pas quand j'avais 27 ans. Quand je mourrai, il aura écrit tout ce que j'appelle ma vie. Two lines written one beneath the other on a blank page, the first page of the manuscript of Tours Promises. Free-floating like a prière d'inséré without the penciled page number or the possessive red stamp of the BNF. As in so much of Cixous' writing, the juxtaposition of the small and specific, 27 ans, with a wide-angle view of life, tout ce que j'appelle ma vie, does not so much destabilize the reader as it opens up a rift in time, the time of reading, the time of writing. A portal is rent open by this disjointedness. Tense and mode collide across the plateaus of two or more than two phrases, each nestled in the other. J'ai commencé, je n'écris pas, j'avais, je mourrai, il aura écrit, j'appelle. It is the livre who is, that is, not now writing, but who will have, that will have, written in the aftermath of certain events, je mourrai, j'appelle. One of those events has already begun to take place, is still taking place, j'appelle ma vie. And it parallels, chiasmatically, the anniversary event of the first sentence, j'ai commencé le livre, a beginning, a birthday, tout ce que j'appelle ma vie. Tense and mode collide, become nestled one in the other. In these strikingly simple sentences, the elasticity of all time pulsates, the time of life, the time of my whole life. My life, as I imagine Henri Brulard intoning with an ironic smirk, as if all of one's life could be condensed into a book. He jotted down his my life in one fell swoop, an avalanche onto the page over just a few quick months in Rome, a city with layers of time and life condensed. Although it was written in winter, it seems to me to be a summer book, written when time slows down, when the days dilate with the swelling air, the summering, simmering air, the season when Cixous' books bloom, when you have all the time in the world. According to the epigraph, J'ai commencé, etc., inaugurating the manuscript of Tours Promises, the livre que je n'écris pas would not begin with the publication of Le Prénom de Dieu, the first published in 1967, 50 years ago, when the author was 30. It begins before that book, perhaps with the writing of the text that would become Le Prénom de Dieu, that is, in the prehistory of writing, L'air qui bouillonne avant le livre. This prehistory is, of course, the time and place in which all of Cixous's writing lives, published or not, L'air qui bouillonne avant le livre. Before the book, in front of the book, the time leading up to the book that is always unfurling, even when there occurs periodically, regularly, a publication. L'air qui bouillonne avant le livre, just like the future perfect of Il aura écrit, where the past perfect of J'ai commencé abandons its singularity and multiplies itself into a string of discrete moments, nestled into one another. Unfurling, enfolding, Cixous. Je veux l'avant d'un livre. Je veux la forêt avant le livre, la foison de feuilles avant les pages. The book I do not write, then, is also in each of the books, small b, and the books, big b, that Cixous has written, and perhaps especially those, more intensely those, that enfold the time of the book into its pages, where the book is its own character, as she has said, or more prosaically, the subject of the book is the writing of the book itself. Jour de l'an, Osnabrück, Le jour je n'étais pas là, Ibn Tombe, and many others. The book itself, its reflexivity, reflected onto itself as in an offset mirror stretching into infinity. its own self, its own book, my life, reflected or refracted, in pieces, multiplied and offset to destabilize even the sense of who is where and what is real. But not only those books, the book about the book. That page or the leaf, la feuille avant la page, bearing the phrases, j'ai commencé le livre que je n'écris pas, appears in the library, in the archive, or as the archive, le commencement et le commandement, the guardian of the manuscript of Tours Promise and its key, the guardian of the livre que je n'écris pas and its key. I started the book I do not write in the library, in the simmering air before the book. I read this page in the library something like 10 years ago, or rather, I snapped to attention before it as it appeared before me, as if reflexively recognizing in it a mirror or a portal, an invitation. Of course, I was primed, the portal was primed. Tours Promise is a book about or around autour du livre que je n'écris pas. Materially, in fact, it enfolds the text entitled Le livre que je n'écris pas, which Cixous read at the library, the other one, the one with the towers, at the conference entitled Jeunesse, Généalogie, Genre, autour de l'œuvre de Len Cixous. We cannot speak directly about the book. Nous tournons autour, said Frédéric Yves Genet. We run after it. Cixous, une rencontre terrestre. Il se détale devant moi comme l'animal sacré qui fait courir tous les impurs chevaliers. Instead, knight or page, you must be still and wait. Pause. In the library, before the manuscript, time stands still. It's like summer. The days dilate with the swelling air. The air simmers. The air is teeming with possibility, with moments before, beside, and beyond the book. As Daniel Ferrer wrote, le halo de virtualité qui entoure la création. All of a sudden, a page appears, the page that seems to stand for the whole work, the whole oeuvre, and more. Tout ce que j'appelle ma vie. Two, the part and the whole. Just one page, the prière d'insérer, a page in a book, a petal, like the book Chapitre Los in its prière d'insérer, its detachable folded enfolded page. C'est un pétale du livre que je n'écris pas, un pétale, détaché du tout de la fleur du livre. Los, comme le dirait ma mère en sa langue allemande, los, détaché. C'est-à-dire arrivant, mobile, autonome, destinal. Each of these words, arrivant, mobile, autonome, destinal, is separated attached by a space, colon, space, deux points, each colon a window, a passageway. The colon provides a quick equation, removing the is faster than presence. What it means to be, a part, and so much more. Within it, so much more than it. Dans cette fleur, les pétales sont des pages non numérotées. La pétale est aussi une fleur. Il est à la fois une page qui fait partie d'un tout structuré et un individu détachable, une fleur de la fleur. Synecdoche, as a trope or rhetorical figure and in relation to metaphor and metonymy, is defined through relations. It is defined, according to Ricoeur, sur la base du rapport par lequel les tropes ont lieu. It is the relationship that determines the trope, which arises like an event, instantaneously and individually, from its own unique relational context. Unlike metonymy, still according to Ricoeur, where two objects correspond to each other but remain excluded from each other, synecdoche works on the basis of inclusion. Two parts form a whole. Like metonymy, though, synecdoche works by linking together two objects before linking ideas. Putting the object before the idea appends the notion that ideas prefigure all rhetorical figuration. Perhaps you can only write your life when you or when it is in pieces, you and or it. How else to assemble tout ce que j'appelle ma vie? I have not tracked down the book's first appearance, nor have I succeeded in drawing up a taxonomy of the family or species of the Cixousian livre and livre que, or its literary cousins or kin. And while it draws on the same laws of chance, the coup, as the scraps of Mallarmé's livre, it seems more sanguine, more vital, attached to the flesh of the everyday, the immediate time of life, and not a divine beyond. It is not the Jabezian dernier livre, nor is it the ultimate œuvre. H.C. Tu vois que je parle non pas du livre à venir, mais du livre immense dont je n'attends même pas la venue, parce que d'une certaine manière, il est là, tout autour, à côté de moi, mais je ne l'écris pas. Il ne se pose pas. Synecdoche is itself a destabilizer of taxonomy, and first of all, of tropological taxonomy. Often misexplained, says the OED, and variously classified as a kind of metonymy or metaphor, it points to the difficulty of classifying rhetorical figures. It is a borderline figure, an ambivalent zone, according to Paul de Man. If the metaphor is a trope of all tropes in the eyes of some, or caught in a rivalry with metonymy for others, synecdoche is an awkward cousin. In its attention to parts, synecdoche sidesteps the absolute. Its tendency is toward the fragment, the moment, instantaneity. In repetition, it does not cohere into a totalizing system, but instead provides a glimpse onto an extensive network. Likewise, Le Livre que je n'écris pas eschews messianic revelation through its status as synecdoche. The part represents the whole, but it is also the whole. On the other hand, the whole is only visible as a part. There is no whole without the part that contains it and brings it forward into the world. As a trope, Le Livre que je n'écris pas links writing to autobiography and further to the archive, indicated by the appearance of this figure, its debut, in conjunction with the inauguration of her archives at the BNF and its presence at scenes of boxing up and transferring, metaphor, manuscripts and papers to the library. From Tour Promise, Le Livre que je n'écris pas s'étend sans mettre et sans ordre dans des dizaines de tiroirs dormants, en un vrac secret partout sur mes étagères, la maison tout entière est peinte de ces phrases sublimes dont lui seul a le génie. Dans chaque objet que vous croyez voir et garder l'événement d'une scène dans tous ses détails. Puis-je transférer le livre intégralement en apparence illisible à l'ABN? Questions for the livre que je n'écris pas. 1. Puis-je transférer intégralement? 2. Est-ce une métaphore? 3. O chestnut tree, great rooted blossomer, are you the leaf, the blossom, or the bowl? Yeats's poem is quoted by de Man, who in Allegories of Reading writes that synecdoche is the most seductive of metaphors because of the convergence in the dance of erotic desire with musical form, which takes place in the parallel rhetorical questions of the stanza and provides the foundation for a meditation on being, the dancing body of the tree standing in here for all that is living. O chestnut tree, great rooted blossomer, are you the leaf, the blossom, or the bowl? O body swayed to music, O brightening glance, how can we know the dancer from the dance? Seduction, desire, Sixou. Je veux l'avant d'un livre. Je veux la forêt avant le livre, la foison de feuilles avant les pages. In the botanical tropique, the synecdoche is no heliotrope. Unlike the Derridian sunflower of la mythologie blanche, metaphor of metaphors, I prefer to see the trope synecdoche as a creeping vine, the tendrils coiling, reaching around, embracing and proliferating. Perhaps it grows best in the summer shade. Sixou writes, il a fini par grandir jusqu'à la taille d'un personnage de Tour Promise, où il est devenu un troisième ou un quatrième tour, ou là où le tour des tours, un des tours métaphore et réalité. Metaphor. Est-ce une métaphore? On doit pouvoir le penser. Un fantôme est-il une métaphore? Un fantôme est aussi une métaphore. Un fantôme est une présence autre. 3. Time stands still. Sixou of Chapitre Los writes, ce livre-ci s'est présenté d'un seul coup, un beau matin, entièrement écrit, flottant juste devant la fenêtre de mon bureau, clairement constitué. Soudain, ce matin-là, j'ai vu l'univers du livre que je n'écris pas. C'est une infinité de présents. Before the window, I mean before the page in the library, when the book or the petal presents itself, the portal that opens up inside of us is a passageway, but also a tear in the fabric of what we think is ourself and the time we reliably, trustingly inhabit. In the library, I'm fairly certain I know what I'm looking at, a piece of paper, smooth, light, nearly transparent, nearly blank, except for two lines of writing perfectly dispersed, assured, simple and certain, written in the imminently recognizable handwriting and yet otherwise unencumbered, unfixed by the page numbers and stamps of the BNF. But although I say to myself, I can be assured, as it seems reflexively, by and of the quivering leaf I loosely hold, it is not clear what temporality I inhabit in that moment, how to alight in disjointedness, where to situate myself in the eras of the livre que je n'écris pas, in the time of writing all that is called one's life. Martha Werner has written, here, where the present is suspended, the reader is projected into another time, another place. Her magic carpet is a scrap of paper on which the poet Emily Dickinson has scrawled. Time stands still for the researcher who experiences this shift from here to elsewhere. But we could also describe research in the archive as the dilation of the present moment into which another time, another place, or perhaps multiple times and places can flow. For George Puttenham, synecdoche is the figure of quick conceit, requiring the listener or reader to translate from one order to another in quasi-synchronicity. But rather than translation or transfer, metaphor, I suggest the quicker collision, asynchrony, Carolyn Dinshaw's term for the dissonance that occurs when we perceive, as she says, different time frames or different temporal systems colliding in a single moment of now. Time is lived, she says. It is full of attachments and desires, histories and futures. It is not a hollow form that is the same always. The sound of desire is restless. It is small, it is dense, it is a single sheet of paper, a post-it note, a lost manuscript, a pressed leaf, a brief note to a friend. Derrida writes, telle fleur, l'héliotrope, porte toujours son double en elle-même, et il peut toujours devenir une fleur séchée dans un livre. It is a moistened cake, a cobblestone, the look of a clump of trees, l'asperge. The objects that transform a temporal contiguity into an infinite duration, as de Man says, praising synecdoche in Proust. Objects that create an unexpected opening, a rift in time, by virtue of their movement, their freedom, detached and dissimilar, mobile, autonome, their possibility of going to pieces. Thank you.
Merci beaucoup, Laura. Thank you, Laura, for opening a rift in time. We're in time. We haven't. On n'est pas en retard. C'est magnifique. Grâce à ces présentations sur le temps, on finit par gagner du temps. Alors, on en arrive à Nane Jordan. Donc, on enchaîne directement sur Nane. Nane is from British Columbia. She is a sessional lecturer in art education at the University of British Columbia in Vancouver, Canada, where she graduated with a PhD in curriculum and instruction. She was recently a postdoctoral fellow with the Centre d'études féminines at Paris 8, 2014-2016. She is working to expand notions of life writing through and with the poetic philosophic texts of Hélène Cixous. She has a working background in midwifery practice, for which I haven't found translation. Midwife is a sage-femme, but midwifery, I can't think of a translation. Obstetrique, obstetrics, but there's also obstetrics in English. Anyway, midwifery. And midwifery and the visual arts, which is even harder to translate. And her work combines birth and art. Her scholarship combines birth and art. Her research explores themes of artistic practice, feminist collaborative arts, life writing and arts-based research, mothering, birth, women's spirituality, and transformative feminist education. I suppose we're going to be transformed. I can see some material over there at the table. There's going to be some show and tell. Okay, go ahead.
Thank you. Merci, Marido. Also, thank you to the conference organizers who brought us all together and also supported me to be able to be here. I really appreciate that. It's a gift to be here with you all. I also want to thank some of the translators who I think are in the audience, because I do my reading and my work in English, and I totally depend upon your very wonderful translations of Cixous' texts, and I know that's managed by you, and I look forward to ongoing translations of books coming. So what I offer today is a small branch Maybe it's a root, a placental root, that grows from my postdoctoral time in Paris, which completed a year ago with Legs and Paris Wheat, where I was working with Marido on the subject of the writing of Hélène Cixous. And I was and am developing and experimenting with approaches and methods in arts-based research. By following Hélène Cixous, what I'll call her linguistic midwifery, and the ways in which her writing thinking provoke and actually give birth to further artful creations of one's own subjects and subjectivity. And this is happening in a generative capacity of her texts. So the placental roots I bring together today combine birth, midwifery, visual art with weaving and stitching with red thread, and of course the writings and my readings in English of Hélène Cixous. And so I am going to play a little bit of show and tell. I need water. So I studied and practiced visual art and textiles, and I also worked many years ago as an apprentice home birth midwife in Canada, which at the time that I practiced was illegal in Canada. And I say this as midwifery and its kind of impulse is interwoven into my artistic and academic work. And I want to note that midwifery as a practice and philosophy understands and honors pregnancy and birth giving as a normal life cycle event for women and their families, where birth giving can be overwhelming, tenuous, potent, painful, joyful, vital, and a sacred experience. So knowing the opposition and fear that the practice of midwifery had faced in Canada and elsewhere, and to oversimplify more complex feminist analysis of that, this is likely tied to patriarchal control and suppression of female generative capacities and the powers of birth itself. So from these problems, I began to develop birth-based themes in my artwork and writing, and I was seeking a freer, and I still am, a freer means of expression for birth and its feminine, female powers, or Shakti, the kind of energetics of birth. So I began to weave with red thread in my artwork, and weaving in red thread have many potential and potent meanings for life, life's blood, and birth-giving origins. So in this way, I want to extend midwifery as a metaphor for attending to the gift of life and its ongoing birthings, and to think alongside birth as a way of living, and to think about birth with Cixous as a way of writing and art making. And so though maternal, what we might call maternal subjectivities, are still often unwritten and maybe undervalued grounds, with the writing of Hélène, birth, its giving, and mothers and daughters themselves become central texts for living in art. And this is especially through a whole corpus of books occupied by Eve, the once midwife and the writer's own aged mother. So Eve and her midwifery caught my attention. She's a red thread for me. I was drawn to read Cixous's mother fictions through their sense of movement between life and inner life in this theater of mother-daughter dialogues that's woven amongst literary characters and narratives, with daily life lived in the minutiae of everyday objects and the intimacy of home spaces. Close conversations between mother and daughter anchor the texts. Underlying these are family memories, migrations, the traumas, deaths, and births, the stuff of life. With Cixous, mother-daughter storylines as mother lines become a liquid stream of life writing that I can swim in, catching up and finding myself in this mother ocean. In her essay, Coming to Writing, Cixous traverses the death of her young father and then situates birth as a generative force that undergirds life and becomes almost a signifier for the creative force of new forms of writing. I think Cixous must have known of birth experiences from her mother midwife, as she writes descriptively of mothers giving birth and evokes a creatively linked relationship between self-power and birth-giving and writing. So I'm quoting from Coming to Writing. Then, her glorious strength, giving birth as one swims, exploiting the resistance of the flesh, of the sea, the work of the breath, body after her own body, the woman follows herself, meets herself. She gives birth. She has her source. She draws deeply. She releases, laughing. And in the wake of a child, a squall of breath, a longing for text, a child, paper, milk, ink, nursing time. And me? I'm hungry too, the milky taste of ink. So in this way, mother, child, and writing are feeding from birth experience. So one project I did based from these translated phrases, English and coming to writing, is I stitched a series of what I'm calling quilted pages, and I took words from the text and stitched them with red thread. So I just have two here. I realized just yesterday, actually, that they're the same size as what we call a Chuck's pad in midwifery. It's the pad that holds the blood. I didn't know I was doing that. I just saw that yesterday, and I finished these at the end of last year, so that was interesting. They were supposed to be pages, but so the Chuck's pad would hold blood. In this case, they're blood and words. So one piece is the breath, the longing for text. And then one is that there's the two words, milk and ink. So just the juxtaposition of the milk and the ink as the text. I'll just leave them out. Can look at them later. So with Siksu, writing is of the body, with a live tempo, with its live tempo and movement. My flesh signs the book, it is rhythm, medium my body, rhythmic my writing. So that writing is an urge from the body to give birth in a parallel form in art in which, quote, the breath wants a form, so that, quote, life becomes the text starting out from my body. And as in conjoining birth to writing, like twins, the body is a text to be read and written. So Siksu continues bodied life writing as she writes alongside her mother, Eve, in several of her fictions. In these books, the relationship between writing and life is almost further fused in the mother, who becomes what I would just call maybe mother writ large. It's kind of an expression in English, writ large. Eve is a mother as in anyone's mother, yet Eve as mother is almost larger than life, a character with goddess-like powers and subliminal agency. With Eve, mother is fused with the act of writing, a double figure who occupies life and art, the progenitor of both. This art-life dynamic is acute, acutely felt in the corpus of Eve books. If mother is the birth giver of books, Siksu is the daughter of writing. I am going to pull out the second piece now. I have a little bit more to read, but this is what I'm calling mother scroll. I'll tell you what it is as I unroll it. So I'm playing with threads of ideas about writing, reading, birth, text, textiles, and the body as a weaving of warp and weft threads. So Mother Scroll combines red yarns with homespun red wool, and the homespun has an umbilical root-like effect. And these are, I kind of wanted it to be like a continuous woven page where the woven body of the scroll then self-generates new scrolls from its main text. So through weaving, I wanted to echo Siksu's generative, regenerative writing, which gives birth to more writing and art. It's something I've talked about with others, that there's a way in which reading the books opens things for oneself in one's own art practice or writing. So this was what I was playing with in the scroll. Also, the scroll has a long tradition in text, from the Torah to, you know, the very ancient writing practices. But so it just would unroll. It's okay. Yeah, why not? So here's the babies. And this is the accord. So it's meant to be more sculptural, too. I would think that it can go in different places and be like a red weaving that it's kind of taking over. So in the translated title, which in English is called Eve Escapes, Ruins in Life, it's Eve Sevade in French. It's a book written by an adult daughter who is the distracted writer of books who also cares for her elderly mother. Their personalities contrast and play so that this mother-daughter dyad is the driving engine of the book. Alongside Eve, figures such as Sigmund Freud, the Tower of Montaigne, and the entrance and exit to dreams all come to bear in the collaged, almost quilted narratives. The daughter writer is almost always torn between the need to be with and care for her mother and the need to write. Tensions are particularly acute in the chapter, The Prisoner's Dream, in which the daughter writer visits her beloved Tower of Montaigne, standing as a historical monument in the French countryside, the tower home of the 16th century French philosopher who is a progenitor of the modern notion of the essay to try. This tower has a mythic capacity in the French landscape for the daughter writer, being a tree and a mother-like source of French language and culture. Her visits to the tower are imbued with great devotion to this source. The visits also provoke incredible tensions involving a forced separation from her mother, who cannot travel with her. The daughter writer writes, "To come back to my mother, the idea occurs to me that I never do anything but come back to my mother. When I return to the tower, I go quickly from my mother to the tower, and as soon as I leave my mother behind, I go as quickly as possible toward the tower so as to come back to my mother with the tense urgency that stirs me. Thereupon, as soon as I see the sayings inscribed on the beams of the library of Montaigne, I see the sayings of my mother. I go from my mother to the tower. It's as if I was going from my mother to a double of my mother." And so in this way, the daughter writer goes from one mother to another, where Eve is almost equated with writing itself. The daughter writer must constantly traverse this seemingly impossible chasm over and over, moving from life to writing and writing to life, a pulled and pulling work always in tension of one for the other, crossing back to the unconscious demands of her textual creations. For there is no life without, there is no writing without the life that gives birth to it, and maybe there is no life without the writing that gives birth to it. So that echoing earlier passages of writing with birth, Eve the mother satisfies features of nourishment and succor for her daughter writer, who describes, "When I look at the body that is my mother stretched out on the couch, that is to say, the body she offers up to my gaze with a smile unlimited in time, I absorb some immaterial and desirable substance that emanates from her and from me. I am but a wide, avid soul, a spiritual mouth and tongue which aspires to pump the vital saps, the teeming visions, the luminous pastures. I graze on everything that is my mother. I take sustenance from what she is, constant, tenacious, centuries rich, without bitterness, and I suckle, thinking, once again, I lack for nothing but tomorrow." So the daughter writer writes and suckles at the breast of life. Such a paragraph opens writing from its living source, where mother endlessly provides and nourishes what becomes text. And in reading the line, "But tomorrow," the daughter's ever-present fears of her aging mother's impending death are clear. With Siksu, death is the precondition for writing, and the source of birth, life, and death in mother and daughter are inextricably linked. Birth, from its reproductive urge and continuance of the species, signals the eventual death of those who give it. Daughter replaces mother, and so on, into endless chains of regeneration. A key mystery from which the fluid saps of writing also run. That's it. Thank you.
Merci beaucoup, Nané. Je pense qu'on est presque en avance maintenant. Du coup, on rajeunit à force de renaître. Et de, entre René et Nané, il s'est passé des choses. je pense qu'il va y avoir des questions. Questions can be taken in English, in any language you like, in Japanese, if René agrees to translate. Any questions?
Une question pour Metka. Tu mets bien en évidence évidemment la question de la mémoire. Il me semble qu'on peut poser quand même aussi l'importance de l'oubli, qu'on a l'impression souvent de mettre l'oubli comme un espèce de repoussoir et la mémoire doit compenser l'oubli. Il me semble qu'en même temps, bon, je ne veux pas revenir sur Péreg, les petits oublis font les grandes mémoires, etc., mais il y a aussi tout un travail. On a vu Hélène a créé ce mot composé d'oublir, et donc elle lit l'oubli au lire, hein, c'est oublier, elle le dit. Il me semble qu'on peut peut-être poser, enfin, ça, je crois que ça lit davantage ta catabase et ton anabase, c'est qu'il y a quand même une part, il n'y a pas de mémoire sans oubli. C'est vrai qu'il y a une renaissance, mais la renaissance ne peut être que parce qu'il y a aussi oubli. Donc c'est un petit peu une question que je te poserai sur la part de l'oubli.
Je pense qu'il y a plus qu'une question, enfin c'est un commentaire et que j'apprécie beaucoup. Ce que je dirais, c'est que je vais l'élargir au lieu de te répondre directement, Cathy. Je vais dire que depuis le temps que je lis ces œuvres, cette œuvre, il m'arrive de me remémorer moi-même, je remembre moi-même mes morceaux et parts de mes connaissances sur cette œuvre. Donc il y a un oubli constant. Bon, c'est dans la nature paradoxale de tout ce qui arrive à notre cerveau. Donc je me suis concentrée sur deux livres en particulier parce que je voulais pas répéter ce que j'ai dit en vers. Mais ce que je vois, c'est plus j'avance, plus ma propre mémoire orphique revient en quelque sorte. Et là, je me rends compte que j'ai oublié pas mal de choses et que pourtant ça remonte. Donc, je suis pleinement consciente de tout ça. Merci.
Peut-être une toute petite question pour René de Secati. Il me semble dans le trajet de Dante, c'est peut-être il y a l'italien bien sûr, la langue vulgaire dans le sens qu'il dit dans son œuvre, son essai sur l'éloquence, mais c'est aussi le florentin. Il y a aussi toute la question de l'accent qui revient et des tournures qui sont liées au florentin. Et qui marque aussi la nationalité, l'identité de la personne. Par exemple, Farinata ou Cavalcanti, dans cet épisode, c'est vraiment le fait qu'il ait une tournure florentine qui lui donne une certaine identité, qui le marque et qui le fait reconnaître. Donc je me suis aussi posé la question si on pouvait comparer cette question de l'accent et évidemment de l'invention de la langue littéraire en italien, mais aussi avec l'accent florentin, que Dante donc fait avec aussi le travail aussi plurilingue ou le travail avec tous les mots composés, etc., le travail d'Hélène Sixou aussi au niveau de la langue. Donc c'est juste une petite question de détail.
Oui, ce serait peut-être une comparaison un peu abusive, évidemment, de mettre sur le même plan les deux situations. Non, simplement, quand Dante utilise le toscan, évidemment, il y a un geste politique, hein, puisqu'il parle de la situation politique de Florence, dont il a été exilé, hein, puisqu'il écrit en exil, et c'est l'époque où il ne s'agit pas uniquement de défendre l'usage d'une langue, mais de défendre une identité nationale. Et donc, le geste politique de Dante consiste à utiliser une situation extrêmement particulière, qui est la sienne. Il se trouve que Florence était un enjeu pour trois grands pouvoirs, qui étaient l'Empire romain germanique, l'Église, le Vatican, le Vatican, et la France. et il était pris entre ces trois pouvoirs, et il fait ce geste d'utiliser une langue extrêmement particulière pour en faire une langue nationale, pour parler du destin de l'humanité, puisqu'il va décrire dans la Divine Comédie, c'est toute l'histoire de Rome, c'est toute l'histoire de l'humanité à partir de la création, en passant par Rome, jusqu'à ce moment-là. Alors, moi je verrais, évidemment pas de la part d'Hélène, parce qu'elle peut répondre mieux que moi, un geste politique de cet ordre-là. Mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement intéressant dans la position d'Hélène, puisque Hélène sait que pratiquement tous ses livres maintenant sont traduits en anglais, en allemand, disons, et dans d'autres langues, et que les traductions vont poser d'énormes problèmes. Puisque ce sont le jeu sur les mots est absolument fondamental et donc on se demande toujours ce que ça va devenir dans une autre langue que le français, surtout avec la grande difficulté des registres. Moi c'est ce qui m'intéressait dans la confrontation avec Dante, c'est le fait qu'il n'ait aucune gêne, aucun scrupule à changer de registre. Et ça, on le trouve en effet dans les livres d'Hélène. C'est-à-dire qu'on est allé à un niveau extrêmement haut de références mythologiques, de références culturelles. Et même si le lecteur n'a pas la même culture qu'Hélène, il entre dans le monde, dans le monde directement. Et ça, je trouve ça extraordinaire comme geste littéraire. Et qu'on retrouve chez Dante. Dante à un niveau culturel absolument écrasant, et le lecteur n'a jamais le sentiment d'être écrasé. Et c'est pour ça que l'utilisation de la langue parlée était fondamentale, parce que ce n'est pas la peine d'apprendre le latin, je vais vous montrer que vous pouvez faire de la théologie en parlant florentin comme mon cordonnier, puisqu'il y a des cordonniers qui apparaissent dans la Divine Comédie, le tout est là. Communication. Par hasard, j'ai vu sur Internet une des premières interviews de Hélène par Pierre Dumayet au moment de la première publication. Et vous répondez, Hélène, parce qu'il essaie de poser de mettre votre conversation à un niveau assez haut. Et puis vous lui répondez par la véritable question, c'est la communication avec le lecteur. Et bien sûr, je veux dire que un écrivain véritable ne s'enferme pas, quel que soit son niveau culturel, quelle que soit la particularité de sa vie singulière, en l'occurrence tout ce qu'on a dit ce matin au propos de la double origine, de toute cette situation extraordinairement singulière, il faut en faire quelque chose d'absolument universel, sans gommer la particularité. C'est ça qui ne cessera d'émerveiller un lecteur face à une œuvre profondément autobiographique et en même temps de réflexion extrêmement profonde, exactement comme Dante va parler d'un amour qui aurait dû concerner lui seul, Beatrice Portinari. Et puis, brusquement, Béatrice devient un mythe, ce que l'on a dit ce matin à propos d'Osnabrück. Comment une particularité devient... Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que c'est comment une langue singulière, une origine singulière, une situation politique très particulière... Bon, il se trouve que ça a été dans le cas de Hélène, c'est un événement considérable qui était la Deuxième Guerre mondiale, qui va marquer terriblement tous ceux qui ont été liés, même nés après. Mais comment cette simple singularité devient un événement qui peut faire naître la littérature?
Non, ça me passionne tout ça. Alors là, sur deux espaces comme ça de méditation. En ce qui concerne la mémoire, ça c'est tellement immense que toute la littérature et tout ce que nous faisons, tout ce que nous respirons est en rapport avec les mystères de la mémoire. Et Donc, brièvement, je voudrais dire que, bien sûr, tu as tout à fait raison, Cathy. Il faut pouvoir oublier pour se souvenir, etc. Bon, d'abord, on dit mémoire. C'est un usage en français. Quand on le dit en allemand, c'est Erinnerung. C'est beaucoup plus beau, d'une certaine manière. C'est rapatrier, si je peux dire, ramener à l'intérieur. Je ne sais pas comment on dit en italien. Ça doit être la même chose qu'en français.
Hein? Ah,
mais bon. Oui. Mais enfin, il ne s'agit pas que de ça. Vous avez dit quelque chose, René. J'ai adoré tout ce que vous avez dit. Mais est-ce qu'on peut distinguer, par exemple, entre la mémoire personnelle et la mémoire familiale? C'est une des choses à laquelle je ne crois pas. Mais ça, c'est mon cas. Hein. Et je pense que la mémoire, elle est dont je ne sais rien, qui est une activité dont je ne sais rien, dont je suis témoin et bénéficiaire. Il n'y a pas de raison pour qu'elle ne commence pas, elle n'émerge pas comme un fleuve dont les sources sont pour moi. Moi, je me dis, je me souviens, et je me souviens depuis au moins 1882 dans certains cas, et dans d'autres cas depuis, disons, 1837. Bon. Et ça veut dire quoi? J'ai des mémoires. Ces mémoires, ce sont les miennes, puisqu'elles m'animent, puisqu'elles m'accompagnent, puisque je les... Elles me font des cinémas, elles me racontent des histoires, donc elles sont indissociables de tout mon être. Et je suis bien, et j'en suis consciente, c'est pas que je veuille m'approprier toutes les mémoires, mais que, comme je l'ai souvent raconté, donnez-moi un escalier, et je sais pas si c'est celui d'Oran ou d'Osnabrück, et non seulement je ne le sais pas, mais je ne le savais pas avant d'aller à Osnabrück. C'est-à-dire que ce sont des mémoires composites, ce sont des œuvres d'art, quoi. Et elles n'ont pas de bornes, elles débordent tout le temps. Bien sûr, ça dépend aussi de la capacité d'inoublier qui est plus ou moins développée selon nos inhibitions, nos fuites, nos envies de ne pas nous souvenir ou au contraire, ne pas oublier. En tout cas, il y a une perpétuation et ça, je trouve ça très important. Sans compter les inoubliables. Alors là, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est infini. Les scènes qui reviennent, qui me peuplent, il y a des inoubliables. Et je dirais aussi qu'il y a un refuge pour les oublier, c'est les rêves. Que de fois, tout d'un coup, réapparaissent dans mes rêves des personnes ou des situations que j'ai totalement oubliées et qui exactement comme dans Nantes, d'ailleurs, qui reviennent devant moi comme des morts ressuscités. Bon. Et alors ça, c'est une des choses qui me donne à penser... comme la dimension historique, alors, qui se rapporte à la mémoire. C'est-à-dire que je ne sais pas comment les exilés, qui sont si nombreux, et puis en ce moment, il y en a des millions et des millions et des millions, mais il y en a toujours eu. Depuis Ovid jusqu'à aujourd'hui, on est toujours dans l'expérience de l'exil. Est-ce que ça produit comme résistance à la perte, ou au contraire, comme labour, comme culture de l'oubli et de la mémoire? C'est immense. Moi, ce qui... Alors, quand vous avez parlé de cette merveilleuse promenade qui me bouleverse de Dante, visiteur, voilà, allant taper à la porte des morts, et bon, je pense que ça m'a toujours complètement fascinée et émue, et je l'ai toujours associée à ce moment mystérieux et fascinant pour moi de la Nekuya. D'ailleurs, je me suis toujours dit, mais est-ce que la littérature et sa façon de rendre épique l'expérience quotidienne, est-ce qu'elle n'est pas liée justement à cette urgence, cette nécessité qui est faite au poète de faire la cuisine avec les morts, voilà. De se dire... Et la recette, c'était quoi? Aïe, 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 il aurait fallu que je demande à Achille comment il préparait ses armes. J'ai pas envie de perdre l'immense mémoire des morts, et il faut que j'aille les chercher. C'est quelque chose qui est une sorte de travail énorme sur la récupération du perdu, sur la réanimation. Il faut pas laisser les morts traîner derrière soi. Ça, c'est la grande leçon des Grecs. Quand on lit l'Iliade, qui est vraiment un incroyable monde de carnage, parce que l'Iliade, c'est tous les jours 20 morts nommés, hein, très précis, parce qu'avant de mourir, on décline son identité, hein, afin justement qu'elle soit préservée. En même temps, le mouvement profond, c'est ça, c'est enterrer, ce n'est pas oublier, c'est au contraire garder, c'est préserver. Maintenant, la langue, ça j'adore, parce que finalement, c'est peut-être effectivement ce qui est pour moi le plus joyeux, le plus précis. Alors, par exemple, je me dis, mais quelle langue parle la littérature ? Alors, bien sûr qu'elle parle le Rimbaud, etc. Mais la langue de Rimbaud parle beaucoup, beaucoup d'autres langues. Et en même temps, puisque vous en avez parlé, prenons Proust, sa langue est très homogène. Même s'il y a énormément de dialogues où tout d'un coup on entend Charlus discuter ou Morel parler. Mais il y a quand même quelque chose qui se situe à un certain niveau de la société. Sauf quand, et c'est une chose qui m'a toujours heurtée, même maintenant, sauf quand c'est pauvre Françoise qui dit des bêtises. Et ça m'a toujours absolument choquée, parce que c'est une attitude tout simplement de classe. Mais en même temps, ça pose une question, justement. Quelle langue parle la littérature ? Elle doit pouvoir parler toutes les langues sans, justement, faire ce que Proust fait avec Françoise, c'est-à-dire, au fond, à faire apparaître quelque chose qui serait ridicule ou méprisé, parce qu'il y a de ça. Mais faire apparaître, enfin, en tout cas, ça, c'est mon sentiment, faire apparaître les poésies extraordinaires, les tonalités, les musiques qu'il y a dans les différentes occasions idiomatiques. Et Dieu sait qu'il y en a. Dieu sait que selon les gens que nous rencontrons, il suffit que nous allions avec eux dans la chambre intérieure, ce que Shakespeare fait, pour que surgisse une langue magnifique qui n'est pas une langue aristocratique, qui n'est pas une langue bourgeoise, qui n'est même pas une langue révolutionnaire, mais qui fourmille de beauté, de trouvailles, justement. Il y a énormément d'inventeurs. Alors là, je dois beaucoup à ma mère, parce que, et pas seulement elle, il y a d'autres personnes, mais ma mère principalement, parce qu'elle parlait sa langue. Elle parlait sa langue entre les langues, entre le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et tant d'autres. Mais ce qui importe, c'est de faire entrer, comme vous l'avez tout à fait rappelé, de faire entrer les langues parlées dans une langue qui est supposée être écrite. Cette langue, elle ne peut écrire que si elle sait parler. Voilà. Et ça, c'est évidemment un exercice qui est un exercice d'écoute et de sauvegarde. Alors, c'est pas par hasard que Dante et Joyce sont copains. Parce qu'ils ont fait le même chemin et le même travail. Et le même travail sublime et extraordinaire. Et qui est finalement extrêmement peu pratiqué. Et là, je dirais que pour moi, il y a des limites. Par exemple, je n'éprouve pas, par exemple, de plaisir particulier à des vulgarités, à des obscénités ou à des négligés de la langue. Parce que les langues populaires, qui sont innombrables, elles ne sont pas négligées. Au contraire, elles sont aussi développées et cultivées que des langues qui appartiennent à d'autres milieux et qui ont d'autres trésors de référence. Il est vrai que nos langues, ce sont des langues qui ont la chance d'avoir des bibliothèques derrière elles. Mais les langues populaires, elles ont des bibliothèques, mais autres, c'est des bibliothèques orales, et elles sont magnifiques. Mais là aussi, il faut pouvoir les recueillir. Alors je me dis toujours que, parlons justement d'exil, ben, il ne faut pas bannir les langues. Toutes les langues, tous les idiomes. Bien sûr, encore une fois, en se disant qu'avec ça, je porte l'art un peu plus loin encore, voilà, je le fais reluire, éclater de rire. Et voilà pour moi le politique de la langue, ne pas bannir les langues. Ma petite fille indienne vient de me donner une leçon d'idiome. Elle a fait de la céramique. Bon. Et elle m'a parlé un peu comme ma mère aurait parlé, c'est-à-dire de la manière la plus spontanée, la plus incalculée. Et quelle initiation! Alors, je ne savais pas ce que c'était qu'un poncif. Et vous savez ce que c'est qu'un poncif? Bon. Eh bien, hein? Non. Ça, il faut demander aux couturières. Alors, les céramistes font, quand ils font un travail d'inscription d'un motif sur une surface, eh ben, ils font des poncifs. Ces poncifs sont empruntés à la technique des couturières. Je ne vais pas aller plus loin que ça, mais de même que je viens d'apprendre ce que c'était qu'un picoir. Enfin, bref, il y a un champ sémantique absolument immense et qui forme la poésie merveilleuse du monde, qui est un monde des artisans. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'il y a la sémantique ou la langue de la couture qui vient travailler et nous faire apparaître qu'on coud aussi, on dessine et on fait vivre en céramique avec la couture. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai que la sœur de ma mère était couturière. Donc on pourrait... Mais je pense que la couture, c'est-à-dire les pratiques de la couture, donc couper, déchirer, etc., etc., tout ça, c'est très important. Et pas seulement. Hein. Alors, j'ai pas d'expérience de plombier. Mais... Non, mais je suis sûre qu'il y a de la plomberie qui circule dans mes textes, mais à toute petite dose. Quant à sage-femme, alors là, c'est infini. Bien sûr. Parce que, voilà, c'est vrai que mes expériences de midwifery, je découvre d'ailleurs qu'on dit midwifery. Tu dis midwifery?
Oui.
Oui, j'avoue à ma grande honte que je disais midwifery, moi.
C'est midwifery.
C'est midwifery ou c'est midwifery?
Midwifery, oui.
D'accord.
Non, c'est ça.
Bon. Bon, alors là, il faut dire que j'ai été inondée dès mon adolescence par le monde de l'obstétrique, qui ne s'appelait pas obstétrique à ce moment-là. Enfin, perdre les os, je savais. Hein. Non, on disait sage-femme. Hein. Tu sais, on n'était pas... Non, les sages-femmes ne disaient pas obstétrique. Enfin, il y avait des patrons en obstétrique. Mais alors, à ce moment-là, c'était les patrons. Hein. Voilà. Ouais.
Je peux rajouter quelque chose par rapport à la signification les mots qui signifient la mémoire dans d'autres langues. En sanskrit, se rappeler, la troisième personne singulière, c'est smarati, et la mort, c'est smritya. Et les collègues sanskrisants n'ont jamais pu m'expliquer quel est le rapport possible. Mais pour moi, il y a un rapport. Parce que dans ma langue slovène, la mort, c'est smrt. Et c'est smarati, la mémoire, et smritya, c'est la mort en sanskrit.
Dans la mythologie indienne, chose qui m'a été rappelée très récemment par Charles Malamud, la mort et le dieu de la mort, c'est Yama.
Oui.
Oui. Voilà. Mais le dieu de la mort est aussi un dieu de la vie et il est très puissant.